Conférence privée par le Père Philippe à Saint-Joseph le 4 février 1987.
aux yeux de lui et lui donner selon une autre modalité. Et puis Jean était parmi les disciples, celui sûrement qui avait la plus grande avidité de tout recevoir de Jésus. Et donc c'était comme un appel constant pour Jésus. D'une âme pour appeler l'Esprit Saint. Et je crois que Marie était présente pour cela dans la vie apostolique de Jésus, pour elle aussi, mais pour recevoir. Et Jean, parmi les apôtres, était celui qui appelait avec le plus d'ardeur que Jésus aille le plus loin possible. Parce qu'il y en a toujours certains qui trouvent que c'est suffisant, pas la peine d'aller plus loin. On met la prudence, qui aime bien la mesure, dans l'ordre contemplatif, alors ça ne va plus du tout. Et l'Esprit Saint, à ce moment-là, arrête la communication de sa lumière et de son amour. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir une très grande soif de recevoir de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint se sert de nous en fonction des désirs et de l'appel de chacun. Et si ces désirs, ces appels sont très forts, l'Esprit Saint se sert de ses instruments. C'est tout arrivé à ce passage si beau, si grand, Jésus face à la Samaritaine. Alors, il y a un premier dialogue, premier moment de dialogue. Vous allez me dire, oui, mais alors, ici, Jésus était seul en face de la Samaritaine. Et la Samaritaine n'avait pas tellement soif. Et c'est très vrai. Mais Jésus avait, lui, une très grande soif. Et c'était suffisant. Quelquefois, quand on est devant un auditoire très froid, il faut avoir chaud pour lui. Quand on est devant un auditoire qui n'a pas une grande soif de vérité, il faut avoir une grande soif de vérité pour lui. Et alors, on arrive à transmettre quelque chose. L'Esprit Saint permet de réveiller. Et je crois que c'est la première chose que Jésus fait. Il réveille la Samaritaine par un acte de grande humilité. Donne-moi à boire. Il se fait le mendiant de la Samaritaine. Et il réclame de la Samaritaine. Et la Samaritaine est tout étonnée de ça. Ça ne lui est jamais arrivé dans sa vie. Qu'un jeune juif, elle n'est plus toute jeune, puisqu'elle a eu 5 maris, alors elle est quand même déjà un peu défaite. C'est bien évident. On voit très bien ça. Et donc, un jeune juif, 30 ans, 32 ans, qui lui dit « Donne-moi à boire ». C'est assez bouleversant, du reste, comme audace de la part de Jésus. Pour réveiller le cœur de cette femme. Comment, toi qui es juive, tu me demandes à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine. Alors Jésus, Saint Jean rappelle, les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Si tu savais le don de Dieu, répond Jésus, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui l'en aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus renverse là les rôles, en montrant que ce qui aurait été normal, c'est que la mendiante demande à celui qui était source. Et Jésus a devancé en prenant la place du pauvre. Jésus aime beaucoup prendre la place du pauvre. C'est très étonnant ça. Et ici, il prend bien la place du pauvre. Parce qu'il sait qu'autrement, la Samaritaine resterait dans son attitude, dans son a priori, et elle resterait fermée sur elle-même. Il fallait donc la réveiller. Et Jésus commence alors à livrer le secret. Il t'aurait donné de l'eau vive. C'est toi qui l'aurais prié. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Là, c'est très curieux. Là, elle se réveille. Elle constate. Elle a bien regardé. Elle a une seule supériorité sur Jésus. C'est qu'elle a une cruche pour puiser l'eau. Vous voyez, la seule supériorité de l'humanité sur Jésus, c'est d'avoir une technique. Une cruche. Exactement ça. Ça ne va pas très loin. L'humanité a la supériorité sur Jésus, c'est qu'elle, cosmonaute, on va sur la Lune depuis que Jésus est venu sur la Terre. Et alors on voit très très bien comment, on dirait, mais je ne peux pas aller là-bas, c'est impossible. C'est extraordinaire de voir ça. De voir comme tout de suite on cherche l'élément de supériorité pour se rattraper. Là, c'est très difficile de maintenir une situation d'humilié. Seigneur, tu n'as rien. La situation d'humilié, c'est que les Juifs ne parlent pas aux femmes samaritaines. Et aux Samaritains, elle est la sœur séparée. Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Comment donc l'aurais-tu cette eau vive? Alors, Jésus a réanimé en elle son sens religieux et traditionnel qu'elle avait complètement oublié avec ses cinq maris. Ça ne faisait pas la tradition, ça. Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu? Lui, ses fils et ses bêtes. Là, c'est très beau, ça. La manière dont Jésus refait vivre dans cet âme. C'est une psychanalyse merveilleuse, divine. Jésus, par avance, bat tous les psychanalystes. Ils n'ont rien du tout à côté. Et la simple présence, et c'est vrai, ça, la présence de Jésus fait que tout va revenir. Alors que tout était enfoui, complètement enfoui, refoulé, et bien refoulé, successivement. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Vous voyez, remarquez, hein, toujours le fait extrêmement concret. Le jugement d'existence, le fait très concret, là, présent. Et puis, Jésus s'élève tout de suite, mais verticalement, et immédiatement. C'est ça qu'on doit apprendre de Jésus. Évidemment, il ne s'agit pas d'imiter. On ne peut pas imiter. C'est impossible. Mais on doit apprendre de Jésus une pédagogie divine. Et là, il y a une pédagogie admirable qui respecte parfaitement toutes les brisures psychologiques. Toutes les brisures psychologiques sont présentes, mais il y a cette espèce de source d'amour, l'eau vive. Donc le renouveau, la reprise de tout. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'étonnement qu'il fait naître dans cette femme, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Alors Jésus unit cette eau vive et la source. L'eau vive, c'est celle qui est toujours unie à la source. Et en donnant l'eau vive, il donne la source. Et c'est pour ça que celui qui recevra cette eau vive aura en lui une source. Une source d'eau jaillissant en vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne me rende plus ici. On est toujours d'accord quand il s'agit de nous libérer d'un joug terrestre. Jésus a conquis le cœur de cette femme parce qu'il promet à cette femme de ne plus devoir être dépendante de la corvée d'eau en plein midi. Alors donne-la-moi cette eau. Et ça, c'est très très beau de voir comment Jésus réveille le cœur de cette femme. Et comment cette femme reçoit tout selon un mode humain. C'est un messianisme temporel. Immédiatement, elle ne conçoit que ça. C'est merveilleux, ce prophète. Il va lui permettre de ne plus jamais revenir là. Alors là, on est tout à fait d'accord. Si l'Église donnait la nourriture tous les jours à tous ceux qui venaient frapper à leur porte parce qu'ils présenteraient une carte qu'ils sont citoyens du ciel, pour être sûr que tous les hommes seraient catholiques. C'est sûr. Et on voit bien, cette femme, elle est conquise. Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif, et que je ne me rende plus ici pour puiser. Elle en a par-dessus la tête de puiser tous les jours, pendant que son faux mari fait la méridienne. Et il lui dit, va, appelle ton mari. Vous voyez bien que Jésus y pense tout de suite. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et elle dit, je n'ai pas de mari. Ah, ça a dû prendre un ton plus grave là. Elle est conquise par le Christ. Et juste au moment où elle est conquise, Jésus l'humilie. C'est comme ça que Jésus fait. Alors faites attention, vous n'humiliez pas trop vos frères. Hein, parce que, faire attention. Le terrain est miné, alors faire attention. Tandis que Jésus, il peut y aller, il n'y a pas de danger. Mais c'est assez extraordinaire. Jésus fait exactement comme pour Nicodème. Dès qu'il acquiert le désir dans le cœur de Nicodème, dans le cœur de cette femme, immédiatement, il humilie Nicodème, il humilie cette femme. Va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5, et maintenant celui que tu as n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Il y a encore quelque chose de vrai dans cette femme. C'est qu'elle sait que son mari n'est pas son mari. C'est encore quelque chose. Encore un sens moral qui reste. Parce qu'aujourd'hui, quelquefois, ce sens moral disparaît. On est encore devant des traditions religieuses. Elle sait. Ma femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Jésus a réactué en elle son espérance. Mais tout revient. C'est très extraordinaire. Alors, ce serait intéressant de voir l'ordre de cette psychanalyse divine. Toutes les couches successives que Jésus remet en pleine lumière. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Puis là, il y a dû avoir un grand silence. Parce qu'on est sur un terrain dangereux. Parler des faux maris. Il vaut mieux pas insister trop. Hein. Oui. Pour nous aussi, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut agir. Hein. Il ne faut pas insister trop. Alors, il lui revient ce qui en est de meilleur, le sens de la tradition. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Voilà qu'elle se met à parler de l'adoration, alors qu'elle venait uniquement pour la corvée d'eau en plein midi. Voyez ça, le passage des deux. C'est très beau parce que c'est les deux extrêmes. Qu'est-ce qu'il y avait encore de vrai dans cette femme? Elle était capable de travailler pour quelqu'un, corvée d'eau en plein midi. Même si ce n'était pas son mari, c'était quand même un homme. Et donc, il y avait encore quelque chose de vrai, le travail. Et de ce travail, Jésus réanime le fond de son cœur, l'adoration. Je crois que ce sont les deux extrêmes du cœur de l'homme, les deux choses qui demeurent le plus longtemps vraies. Tout le reste peut être très abîmé. Il y a quelque chose qui reste vrai. La capacité de travail pour un autre. La générosité dans le travail. Il faut toujours se rappeler ça. C'est tellement important. Quand vous parlez à un marxiste, ne discutez pas trop avec lui sur le marxisme et parlez du travail. Et un travail pour un autre. Et puis, ensuite, c'est plus difficile de lui rappeler ce qui est très très caché dans le cœur de l'homme. Ce besoin d'absolu. Ce besoin d'absolu. Parce que si on n'adore plus, on adore tout le temps quelque chose. Tout le temps. Ça reste. Ça reste très profond dans le cœur de l'homme, ça. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que c'est à Jérusalem qui est le lieu où il faut adorer. Elle remet en lumière ce qui était la grande question de toute sa vie d'enfant. Pour un enfant, nos pères, ça signifie quelque chose. Et nos pères ont adoré sur cette montagne. Les Samaritains adoraient sur la montagne. Et ils étaient inquiets. Parce que les Juifs disaient qu'il fallait adorer à Jérusalem. Vous voyez, querelle de liturgie. Transposée, et vous aurez des modalités tout à fait actuelles. Nos pères ont dit qu'il fallait adorer sur la montagne. Et vous, vous dites que c'est à Jérusalem qui est le lieu où il faut adorer. À la place d'adorer, à la place de prier, à la place de louer Dieu, à la place de chanter, on reste fixé sur la modalité avec laquelle on chante, la modalité avec laquelle on adore. S'il faut adorer à Jérusalem, s'il faut adorer sur les hauts lieux, oui, ça n'a pas changé l'humanité. Les querelles liturgiques, c'est-à-dire des modalités, aller jusqu'au bout des querelles liturgiques. C'est des modalités. Employer le latin ou employer l'hébreu sont des modalités. Employer le latin ou la langue vulgaire, ce sont des modalités très importantes. Je suis tout à fait d'accord. Dans la mesure où c'est Dieu qui l'a déterminé, dans la mesure où c'est l'Esprit Saint, mais ce n'est pas pour nous. Nous, on obéit. Adorer à Jérusalem ou sur les hautes montagnes sont des modalités. C'est très curieux et c'est très important de voir ça. Cette femme a été indéterminée. Il lui restait une indétermination fondamentale par rapport à l'ordination, par rapport à l'adoration, à cause des modalités liturgiques. Comme il faut faire attention aux oreilles des enfants. On verra tout ça et vous en verrez. Des personnes qui ont grandi dans les querelles liturgiques. Et il y a quelque chose alors qui ne s'est pas stabilisé. L'adoration, c'est le lieu le plus profond de la stabilité de notre âme. Notre âme se stabilise, se fixe grâce à l'adoration. C'est l'adoration qui nous fait rejoindre le roc. Si, à l'égard de l'adoration, il y a un petit bémol, il y a quelque chose qui met le soupçon. Faut-il adorer sur les hauts lieux? Faut-il adorer sur Jérusalem? Et tant qu'on discute, on n'adore pas. Oui, ce que je vous disais, le 2 février, l'intelligence pratique discute indéfiniment. Là, on le voit bien. Et pendant ce temps-là, on oublie la finalité. C'est dans ce sens-là que les discussions indéfinies sont contraires à la prudence. Parce qu'elles nous font oublier ce pourquoi on discute. On discute pour adorer. Et en discutant, on n'adore plus. Vous savez, il faut être très, très attentif à ça. Et c'est très important. Parce qu'on perd un temps énorme dans notre vie à cause de ça. Non, on voit très très bien cette attitude de cette femme. Il y a eu dans sa jeunesse un soupçon qui est né, qui est venu, qui fait qu'elle n'a pas pu avoir cette stabilité. Et ça se reporte quand elle est plus âgée du côté de l'amour humain. Cinq fêlures, hein? Cinq fêlures dans son amour humain, cinq maris. Ça fait bien cinq fêlures. Il y en a deux, c'est déjà bien. Il y en a cinq. Et ça provient d'où? Cette fêlure fondamentale du côté de l'adoration. Le premier amour, c'est notre amour à l'égard de Dieu. Voyez, Jésus nous montre ça, si on sait regarder attentivement, si on sait comprendre un peu ce qu'il nous est montré là. C'est merveilleux, du reste, de voir ça. À vous dire, oh, c'est pas absolument nécessaire. C'est quand même ce qui est dit. Et j'essaie de comprendre. Il y a des tas de détails dans la vie de cette femme qui ne sont pas dits. Il n'y a qu'une seule chose qui est rappelée en face du Christ. La querelle liturgique à l'égard de l'adoration. Et les cinq maris. Je connais cette femme uniquement. Samaritaine. Querelle liturgique. Cinq maris. Je crois que tout est dit. En présence de Jésus. Oui, le cœur de cette femme. Je crois qu'on peut dire ça. Et aujourd'hui, les études psychanalytiques les plus poussées diraient exactement la même chose. C'est que toute fêlure psychologique qui arrête le sens de l'adoration et qui empêche l'adoration d'aller jusqu'au bout aura nécessairement des répercussions du côté de l'amour humain. Puisque notre amour humain est dépendant de notre amour de Dieu. L'amour de Dieu est premier. Hein? Il est premier. Il est fondamental. Et donc, s'il y a quelque chose qui arrête et qui empêche cet amour divin d'aller jusqu'au bout, il y aurait une répercussion au point de vue humain. Ça, c'est très très beau, parce que c'est Jésus face à la femme. Et la femme est particulièrement fragile parce qu'elle est particulièrement aimante. L'amour nous rend plus fragiles et la femme a plus de sens de l'adoration que l'homme. Il faut le reconnaître. Et par le fait même, les querelles liturgiques par rapport à l'adoration ont des répercussions plus terribles vis-à-vis des femmes. Et alors, ça se répète après, dans le point de vue proprement humain. Alors, la manière dont Jésus va donner le remède à ça, un psychanalyste constaterait, hein. Oui, voyez bien. Ça explique tout. Oui, ça explique tout. Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. On est dans l'ordre pratique. Ce qu'il faut, c'est donner le remède. Et Jésus va tout de suite au remède. Crois-moi, femme. C'est la première fois que Jésus l'appelle femme.
Il était faible de santé. Ce qui
qui permet quand même de vivre assez vieux. Il était faible de santé, fragile. Alors on l'envoyait régulièrement passer les hivers et puis de longues périodes dans le Valais où il était reçu dans une famille catholique. Et le petit Roger se disait au plus intime de son cœur, ces deux familles, je les aime. Ce sont mes deux familles. Or, l'une est protestante, l'autre est catholique. C'est impossible, ça. C'est impossible. C'est né dans le cœur d'un enfant et dans la blessure du cœur d'un enfant. Je trouve ça très beau. Je crois pas que c'est un secret, parce qu'il ne m'a pas demandé de me taire quand il m'a dit ça. Mais il me l'a dit. Je l'avais vu. Ce temps-là, il avait un peu de temps. Alors, je crois qu'on est passé 5 heures ensemble à parler sur tous les sujets. Et pendant 5 heures, il n'y a pas eu un seul moment où on était en petite division. 5 heures. C'est rare qu'on parle 5 heures avec un théologien catholique. Sans aucune division. Je sais bien qu'on faisait attention l'un et l'autre de s'aimer beaucoup. D'être unis dans la charité, mais c'est quand même très beau ça. 5 heures. Et il m'a raconté cette histoire que j'ai. Ça s'est resté gravé dans mon cœur. C'est tellement beau de voir que Thésée est né de la blessure d'un cœur d'un enfant chrétien, religieux, qui ne pouvait pas accepter d'avoir deux familles qui ne se comprennent pas. Alors vous voyez, Jésus nous montre comment nous devons faire la vraie théologie de l'œcuménisme. C'est aller plus loin. Si Dieu a permis la division, c'est pour un plus grand bien. Toujours, Dieu permet le mal pour quelque chose de plus grand. Autrement, il ne serait pas père. Il permet les oppositions, les séparations pour quelque chose de plus grand. Et ici, on voit bien ce quelque chose de plus grand. Il est montré. Et dans cette discussion, c'est très très grand parce que Jésus n'abdique rien. Le salut vient des Juifs. Et non pas des Samaritains. Donc il maintient la vérité. Il ne fait pas un cocktail de deux traditions en disant chacun a quelque chose de bon, il suffit de s'entendre, se mêler ensemble. Je suis borgne, vous êtes claudiquant, on va quand même marcher ensemble. Non, il ne fait pas ça du tout, c'est pas du tout l'œcuménisme de vase communicant, comme on l'a dit, n'est-ce pas? Bien, le communisme de vase communicant, c'est justement ça. Il faut essayer de s'entendre pour arriver au même niveau. Ah, c'est un manque total du respect de la foi de l'un et des autres. Il faut au contraire comprendre que si l'Esprit Saint veut faire l'unité, il ne peut la faire que dans un dépassement. En maintenant la vérité, le salut vient des Juifs, mais elle vient leur. Et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les véritables adorateurs. Soulignés dans l'évangile de Saint Jean, toujours le pain véritable, la lumière véritable. Toujours à l'été. Ici, les adorateurs véritables, vous relevez sur une petite fiche tout ce qui est véritable. Très intéressant parce que ça, c'est justement le sens mystique, spirituel. c'est le sens mystique, le sens littéral, spirituel. Où les adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. C'est le Père qui les cherche. C'est le Père qui cherche l'unité de ceux qui se sont divisés pour des querelles liturgiques, qui se sont divisés au-delà des querelles liturgiques pour des querelles plus profondes. Et le Père cherche cette unité. Dieu est esprit, et ceux qui adorent doivent adorer en esprit, en vérité. Comme c'est très fort, ça. Alors, vous voyez, les deux aspects, si on essaie de comprendre un tout petit peu ce dialogue, première partie du dialogue, l'eau vive, c'est parti. L'eau vive, c'est l'eau véritable. Et c'est parti de l'eau historique, du puits. Et de là, on est arrivé à l'eau vive. On arrive à un terme dangereux, un sommet dangereux. Marie, les cinq Maries qui sont là, l'ombre des cinq Maries. Alors on reprend tout par le point de vue de l'adoration, des faits concrets, et on reprend tout pour aboutir aux adorateurs en esprit en vérité. C'est très très grand, ça. Il y a une montée, il n'y a pas une descente, parce que des deux côtés c'est une montée. La femme lui dit, je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il viendra, celui-là, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est très rare que Jésus se dévoile comme Messie. Il le fait pour la Samaritaine. Ben ça, c'est très important à noter. Il se dévoile comme Messie, d'habitude jamais. Le Fils de l'homme. Donc c'est Daniel. Tandis que le Messie, c'est la tradition. Et le Messie, c'était teinté d'une tradition de messianisme temporel. Je le suis, moi qui te parle. Ça, je crois que c'est la très grande miséricorde de Jésus pour la Samaritaine. Alors, vous voyez bien, parce qu'à partir de là, ils ne sont plus tout seuls. Alors, évidemment, vous allez me dire, comment Jean peut-il rapporter ça, puisqu'il n'y a pas eu de témoin. C'est sûr, hein. Il ne faut pas dire que Marie était là à côté, qu'elle était... Non, non, pas du tout, ça. Je crois pas du tout. Il y avait un magnétophone caché. Un ange, j'aurais descendu ça, vous voyez. Au service du Christ. Tout ça, c'est faux. Mais je ne vois aucune difficulté à ce que Jean ait demandé à Jésus ce qui s'était passé. Le soir, j'aurais été à la place de Jean, c'est ce que j'aurais fait. Avec beaucoup de respect, mais on aurait fait ça, c'est bien évident. Quand Jésus dit qu'il a pris une nourriture inconnue des autres, moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Mon aliment, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, Jésus montre bien qu'il s'est accompli quelque chose d'étonnant, les prémices de sa vie apostolique. Et les prémices de sa vie apostolique par rapport au dépassement vis-à-vis du peuple d'Israël. Jusque-là, tout demeure dans le peuple d'Israël. Et là, il y a un dépassement. Et ce dépassement, c'est pour la Samaritaine et c'est pour cette pauvre femme qui est en situation limite. Alors, elle est vraiment en situation limite, cinq maris. Corvée d'eau en plein midi. Pauvre humanité, hein. Quand Jésus reviendra dans sa gloire, l'humanité sera dans la situation de cette pauvre femme. Je crois qu'on peut le dire. Elle est en situation limite, au plan religieux, au plan humain. Et c'est elle que Jésus attend, la délicatesse du Christ, de l'attendre, pour être seul avec elle. Parce qu'évidemment, cette femme devant 12 hommes, je ne dis pas barbus, mais presque, je crois, les apôtres, 12 hommes qui étaient là auprès de Jésus, comment voulez-vous qu'elle puisse dire quelque chose? C'est impossible. Ça aurait un manque de délicatesse, un manque d'amour. Il faut que tous les apôtres disparaissent. Et que Jésus reste seul avec elle. Vous voyez, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, Jean l'a compris. Et c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Que lorsqu'il s'agit de sauver une âme, le bon pasteur laisse les 99, là ils sont les 12, aller s'occuper de l'organisation. Les apôtres aiment beaucoup de s'occuper de l'organisation. Ça, ils font ça très très bien. Là, Jésus est seul. Et Jésus attend cette femme, cette pécheresse, cette malheureuse, qui ne sait plus où elle en est. Elle ne sait plus du tout où elle en est. Et c'est Jésus qui la remet dans la ligne. Et c'est merveilleux, il fait ça. Avec cet amour extraordinaire. Vous voyez, je crois que Jean a saisi cette délicatesse de la miséricorde du cœur de Jésus. Pour cette femme, la Samaritaine. Ça en dit très long sur le cœur de Jean. Ça. Jean a saisi le contenu de cette miséricorde, les adorateurs en esprit, en vérité. Jean avait connu plus d'une fois des luttes, des rivalités de liturgie. Ça, c'est bien. Seule manière de dépasser toutes ces rivalités liturgiques. On ne demande pas aux uns et aux autres, tu vois, tu as raison, c'est bien évident. C'est toi qui as tort, c'est bien évident. L'évidence d'avoir raison ou d'avoir tort, dans l'ordre pratique, c'est toujours celui qui affirme sa thèse. Pour qui ? Elle est évidente. Il n'y a pas d'évidence absolue dans notre pratique. Jamais, jamais. Même au point de vue artistique, il n'y a pas d'évidence absolue. Ah, il y a du plus et du moins. Oui, oui, oui. Heureusement, heureusement. Mais il n'y a pas d'évidence absolue. Surtout dans des contextes très différents. Le contexte des Juifs, des Samaritains. Vous voyez, tout ce que ça fait, une tradition religieuse qui porte tout ça. Jésus montre qu'il ne faut pas humilier par rapport aux traditions religieuses moins parfaites, qu'il faut dépasser les adorateurs en esprit, en vérité. Autrement dit, on rappelle la finalité, un dépassement du conditionnement. Au niveau du conditionnement, on peut lutter sans étendre. Et le conditionnement, quand on lutte trop sur le conditionnement, on ne voit plus que le conditionnement et la finalité est étouffée. Et Jésus rappelle immédiatement la finalité des adorateurs en esprit, en vérité. C'est pas le lieu qui compte. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'intention profonde du cœur. Des adorateurs en esprit et en vérité. Parce que c'est ça le essentiel. Vous voyez, je crois que ça, c'est très important ce que Jean là a saisi. Toute division, toute séparation, toute querelle familiale, toute querelle liturgique, tout déséquilibre, il n'y a qu'une seule solution. Les adorateurs en esprit, en vérité. Ça, c'est merveilleux. Et c'est ce qu'il y a de plus fort, parce que l'adoration reprend l'adoration que vous rectifiez votre affectivité. Et ce n'est que par l'adoration que vous pouvez rectifier votre affectivité. Votre affectivité sensible, passionnelle, et votre affectivité spirituelle. Si vous n'adorez plus, vous ne pouvez pas rectifier. Donc vous êtes errant, vous ne savez pas où vous allez. Vous devenez très vite comme la Samaritaine. C'est pour ça que je dis l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, elle est comme la Samaritaine, vous savez. Quand vous regardez bien. Et Jésus nous montre le seul moyen de rectifier le cœur de la Samaritaine. C'est les adorateurs en esprit, en vérité. Je crois que ça, c'est capital pour nous et pour ceux qui sont proches de nous. Quand nous serons devant des cas analogues à la Samaritaine, quand nous verrons quelque chose de semblable, pouvoir donner cette lumière et montrer l'orientation par où il y a une solution divine, une solution d'amour. On rectifie par l'adoration, on rectifie sa volonté et on rectifie son amour pour le prochain. Tout est rectifié en même temps et divinement rectifié. Là-dessus vinrent ses disciples et s'étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Pas besoin d'herméneutique là. Aucun pourtant ne dit que lui veux-tu ou pourquoi parles-tu avec elle. On voit très bien les petites réflexions des apôtres. La femme laissa donc sa cruche et s'en alla à la ville. Elle est très réaliste. Elle sait quand ses 12 reviennent. C'est pas très bon. Il vaut mieux partir à toute vitesse. Alors elle s'en va tout de suite. Alors ça se réalise à cette femme. Elle laissa donc sa cruche. Elle a tout oublié. Elle s'en fut à la ville et elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et comme elle en a fait beaucoup, ne serait-il pas le Christ? Dieu se sert de la quantité des péchés pour lui donner une crédibilité plus grande.